Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er février, vous écoutez Transistor en direct pour ce journal radiophonique amplifié, 31e édition. Alors ce soir, eh bien, on reprend notre grille habituelle après une très longue absence. On va retrouver Marie pour sa revue de presse, Robin pour l'édito économique, le décortiquage de François René que j'oublie en passant. Nous prendrons rapidement les pieds sur le tapis, dans le tapis avec Jean-Michel Blanquer, puis on passera à la culture et puis enfin aux sciences. Et j'oublie en short, oula, c'est très très vieux là, c'est une catastrophe,
en
sueur et en courte qui n'aura pas lieu ce soir pour cause d'agrég. Mais avant de m'emmêler les mots une fois de plus, je passe tout de suite au journal. Bonsoir May, bonsoir François René, comment allez-vous?
Ça va, merci.
Je vous ai bien eu, je ne veux pas être le seul à me planter. Eh bien c'est parti pour le journal.
Sur la question des emplois fictifs au FN, le témoignage de Charles Van Hout, ancien attaché parlementaire européen accrédité par Marine Le Pen, tend à la mettre en cause. Il aurait notamment confirmé qu'un garde du corps de Le Pen avait été accrédité comme assistant parlementaire. Dans plusieurs cas, c'est la présidente du parti elle-même qui est en cause. L'affaire montre en tout cas que le FN a organisé sciemment le financement de sa propre activité en détournant les fonds du Parlement européen. Le CSA a décidé hier de la révocation de Mathieu Gallet de la présidence de Radio France. Pour rappel, en 2015, le canard enchaîné avait épinglé l'ancien directeur général de l'INA aux dépenses suspectes. Deux mois plus tard, le parquet de Créteil ouvrait une enquête pour favoritisme sur des contrats. Le 15 janvier dernier, Mathieu Gallet a finalement été condamné à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Le CSA a fait part de sa volonté de prêter une attention particulière aux questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique. En attendant, certains s'inquiètent de cette révocation qui tomberait mal pour Radio France alors que le gouvernement a lancé un programme de réforme de l'audiovisuel. Il serait problématique que le président de Radio France soit absent des grandes discussions qui vont avoir lieu et qui détermineront l'avenir des grands médias. Le gouvernement désire en effet impulser les réflexions autour des cinq problématiques suivantes: le public jeune, l'international, l'offre de proximité, le numérique et les fonctions support et technique. En outre, il désire faire quelques 80 millions d'euros d'économie. Reste à savoir maintenant si c'est bel et bien l'ancien haut dirigeant de Peugeot Citroën et fervent macroniste Jean-Luc Vergne, jusque-là pressenti, qui succédera à Mathieu Gallet à la tête de Radio France. Mercredi a été votée par l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires en France. La sécurité d'abord, notamment face à de possibles attaques terroristes qu'il serait absurde de ne pas considérer dans le contexte actuel, selon Barbara Pompili. Sécurité qui, à la suite d'intrusions dans des centrales par des militants de Greenpeace, a pu être remise en question. La sûreté ensuite des installations elles-mêmes, vous savez, cette sûreté du nucléaire qui a permis au nuage radioactif de Tchernobyl de s'arrêter au-dessus de la frontière française autrefois. Plus sérieusement, la commission pourrait permettre potentiellement de pointer du doigt les réacteurs à fermer et d'ainsi peut-être commencer à amorcer une sortie du nucléaire. C'est ce que souhaiterait Nicolas Hulot, toujours attaché à l'objectif de descendre en dessous des 50% de production d'électricité d'origine nucléaire d'ici la fin du mandat. Le gouvernement, s'il n'a pas encore remis en cause cet objectif, n'est lui pas très favorable au fait de désigner d'ici la fin de l'année les réacteurs à fermer.
Nouvel homme à la tête de l'Union africaine, le 30e sommet s'est clôturé ce lundi 29 janvier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'organisation. Le président rwandais Paul Kagame, au pouvoir dans son pays depuis 2000, prend la tête de l'organisation et succède à Alpha Condé, le président guinéen. Kagame est chargé d'appliquer les réformes et notamment celle de l'autofinancement de l'UA grâce à une taxe sur les importations. Avec à l'horizon l'espoir que l'Union africaine ne dépende plus de financements extérieurs comme ceux des États-Unis. Cependant, au fur et à mesure que le projet avance, des résistances se manifestent, notamment de la part de pays qui, comme l'Égypte, dépendent beaucoup de leurs échanges extérieurs. Le sommet s'est en outre tenu dans un contexte tendu, alors que le journal Le Monde a révélé la semaine dernière que la Chine avait placé l'Union africaine sur écoute entre 2012 et 2017. papoter maintenant. Après la visite ratée du pape au Chili, le service de presse du Vatican a annoncé mardi 30 janvier que le pape François avait décidé d'envoyer un représentant à Santiago du Chili, je cite, pour écouter ceux qui ont manifesté la volonté de faire connaître des éléments qu'il possède. Cette périphrase désigne les victimes du prêtre chilien Fernando Caradima, reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs par l'Église catholique en 2011. Ces victimes dénoncent la nomination par François d'un des anciens protégés de Fernando Caradima, Mgr Juan Barros, comme évêque d'Osorno, un diocèse du sud du pays, en janvier 2015. Plusieurs accusent ce prélat d'avoir été présent à l'époque pendant qu'ils étaient agressés et d'avoir couvert par la suite les agissements de son ancien mentor. Lors de sa récente visite au Chili, du 15 au 18 janvier, le pontife s'était dit convaincu que Mgr Barros est innocent et avait affirmé qu'il n'y a pas une seule preuve contre lui, mais bien des calomnies. Voilà maintenant Mgr Barros, dont le pape a refusé par deux fois la démission, visé par une enquête du Vatican. Et on termine les infos internationales par les États-Unis avec le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. C'est le discours que doit prononcer le président en exercice à chaque début d'année. Dans ce discours qui a duré 80 minutes contre 63 en moyenne pour son prédécesseur, Trump n'a prononcé ni les mots Corée du Nord, ni ceux Hillary Clinton, ni fake news. La seule annonce de la soirée a été de déclarer officiellement l'abrogation du décret de Barack Obama qui prévoyait de fermer Guantanamo, qui avait été signé en 2008, une promesse que les républicains du Congrès avaient empêché Obama de tenir. Pour le reste, le président a, selon les observateurs, un peu moins menti que d'habitude, mais quand même un peu. Donald Trump s'est attribué l'entière paternité de la bonne santé de l'économie américaine. Par exemple, en qualifiant sa réforme fiscale de plus importante du pays, ou en saluant, je cite, le taux de chômage le plus bas parmi les Afro-Américains jamais enregistré. En réalité, ce taux de chômage est en baisse depuis 2011, et la baisse observée depuis un an se fait au même rythme qu'auparavant, comme l'ont souligné les 49 élus noirs du Congrès via leur groupe Twitter. Ce taux est passé en 6 ans de 16,5% à 6,8%. Trump a aussi réitéré sa formule selon laquelle il avait fait baisser les impôts comme jamais dans l'histoire du pays. Or, Reagan, avec qui il est dur de rivaliser à ce petit jeu, avait fait des baisses d'impôts 4 fois plus importantes en valeur absolue. Bref, à néolibéral et demi.
Et on passe désormais au sujet long.